séance spéciale, donc c'était au début du mois d'octobre. Monsieur Nzunzi, est-ce que vous pensez que c'est un déclencheur du revirement du gouvernement américain ?
Non, pas du tout. Les États-Unis sont engagés, on le sait, dans la lutte contre le terrorisme et singulièrement dans la partie sahélienne. Ces pertes humaines ne sont pas en soi exceptionnelles, sauf que bien évidemment, du fait du caractère assez nouveau de la présence américaine, notamment au Niger, cela a suscité bien évidemment l'émotion. Je pense que les États-Unis ont préféré privilégier une approche bilatérale par rapport aux cinq pays qui constituent la force du G5 Sahel plutôt, et je pense qu'on en reparlera, plutôt que de confier les fonds aux Nations Unies.
Alors sur la forme, il y a une avancée du gouvernement Trump concernant sa position face au G5 Sahel, mais sur le fond, Washington s'oppose à l'ensemble de ses partenaires du Conseil de sécurité et des pays membres du G5. Elle refuse toujours d'accéder à la demande d'Antonio Guterres d'autoriser un soutien de l'ONU. Pourquoi cette décision selon vous, monsieur Abdallah ?
Ce n'est pas nouveau. Les États-Unis, bien que le pays hôte des Nations Unies, bien que membre permanent des Nations Unies, bien que les Nations Unies aient été créées par Roosevelt, le président démocrate victorieux de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours, à cause des politiques internes, Congrès, Maison-Blanche à Washington, il y a toujours cette suspicion que les Nations Unies ne sont pas efficaces. Et les Nations Unies, tenant compte de la société des nations qui a échoué parce qu'il n'y avait pas les États-Unis, se trouvent donc dans une situation où c'est difficile de travailler avec Washington, donc difficile de travailler avec Washington, mais impossible de travailler sans Washington. Voilà donc les dilemmes dans lesquels se trouvent les Nations Unies et les relations internationales s'agissant de la présence américaine. Ceci étant, sans les États-Unis, il est difficile de donner une crédibilité financière, diplomatique et militaire à une institution. Les États-Unis, c'est quand même l'OTAN. Les États-Unis, c'est l'OTAN. Les États-Unis, c'est la Banque mondiale, le Fonds monétaire. C'est aussi l'OCDE au départ, qui était le plan Marshall. Je fais ce rappel historique pour que on n'oublie pas qu'il y a les contraintes avec lesquelles il faut tenir. Et je pense donc qu'il est très bon que malgré les réserves purement oui. d'origine interne aux États-Unis, l'Amérique va soutenir la France et l'Europe dans le Sahel. Ça va être un soutien difficile comme tout ce qui se fait dans les régions à cause des problèmes de contrôle, de financement, ainsi de suite. Mais personnellement, je suis optimiste qu'il y aura une entente à terme pour amener les pays du Sahel.
Vous êtes optimiste, monsieur Abdallah. Il faudra attendre mars 2018 pour que la force conjointe atteigne sa pleine capacité de 5000 hommes. Chaque pays du G5 Sahel devra y contribuer avec 1000 hommes chacun à apporter. Idriss Fall, vous qui vous êtes rendu sur le terrain, est-ce que vous pensez que les soldats en question sont assez équipés et assez formés?
Pas seulement cela, c'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme, les soldats américains sont en Afghanistan depuis 16 ans et ça n'a pas permis d'arrêter le terrorisme. Tout le monde le sait.
Ça
prendra beaucoup de temps, d'autant que dans la zone dont on parle, la zone de...
Pendant que Idriss parle, je vais demander à quelqu'un de m'aider pour la caméra. Oui.
Dans cette zone, si je prends le Mali qui a été occupé en 2012, les djihadistes sont venus, ont pris tout le nord en l'espace de quelques mois. Ils sont établis là-bas, ils ont commencé à couper des bras et même à un moment donné, ils ont commis l'imprudence de descendre sur Mopti Sévaré qui accueille actuellement le quartier général de cette force du G7. Les gens sont dispersés. Il y en a un groupe qui opère dans le nord du Mali qui s'appelle les défenseurs de l'islam. Il y a un autre groupe qui opère dans le centre du Mali, qui est le mouvement de libération du Massina, qui est dirigé par un certain Hamadoun Koufa. Il y a Abou Adnan Al-Sahrawi, qui est l'auteur présumé de toutes ces attaques-là dans l'ouest du Mali et qui chevauche jusqu'au Niger. Et on pense que son groupe à lui serait lié à cette attaque-là où 4 soldats américains ont été tués. Et sans oublier, plus au sud, vous avez encore...
Et sont-ils bien armés?
Sont-ils bien formés? Tous bien armés, les terroristes.
Non, les soldats de la force.
Les soldats de la force. Pour le moment, il n'y a pas d'argent. Donc quand on n'a pas d'argent, vous savez, on ne peut pas acheter beaucoup d'armes. Hein. Donc c'est l'argent le nerf de la guerre, on le dit toujours. Donc mettre en place une force, c'est très joli, c'est très beau.
Même les former,
on ne forme pas des soldats pour lutter contre le terrorisme à nos jours.
Oui, c'est vrai, parce que par exemple le Tchad, qui a vraiment la force qui fonctionne le mieux, a une vraie culture de guérilla. Mais ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays du G5 Sahel.
Toujours, on en revient à la question d'argent. Monsieur Idriss Déby a dit à tout le monde, écoutez, le prix du baril de pétrole a chuté, je n'ai plus d'argent, amenez-moi des sous. Il est parti à Paris le dire.
Oui.
Il a menacé même de retirer ses troupes, et même, je pense, les semaines dernières, il menaçait de retirer ses troupes de Difa là-bas pour combattre Boko Haram. Donc, on en revient à la question de l'argent. La guerre, ça coûte extrêmement cher. Un avion qui décolle, c'est $1 million par jour. Donc, si l'argent ne vient pas, ça sera une force dont on doit, même, je pense, Didier Dacko, qui est le chef de cette force basée à Sébaré, quand le Conseil de sécurité est passé là-bas, c'est ça qu'il a dit.
Cet argent en priorité pour équiper les soldats. Doit-on envisager un Interpol version africaine ou qu'en est-il des services de renseignement en Afrique? C'est vraiment quelque chose de très important. Qu'en pensez-vous, Monsieur Abdallah?
Écoutez ce qui vient d'être dit. La guerre ou les difficultés ou le conflit ne va pas être gagné uniquement par une présence militaire forte. On l'a vu, vous voyez, il y avait de fortes présences militaires en Afghanistan, au Moyen-Orient, il y en a en Somalie avec la mission. Je pense personnellement qu'une présence militaire forte, crédible est indispensable. Mais pour réussir, elle doit être appuyée par d'autres éléments. Donc, le renseignement, mais aussi une meilleure gestion nationale. Alors, je reviens sur ces points. L'armée doit être de plus en plus une armée nationale. Je le dis parce qu'il est possible qu'il arrive que dans certains pays, la hiérarchie de l'armée, où l'armée est surtout, je ne dis pas tribale ou ethnique ou régionale, mais les soldats qui se battent ne se sentent pas suffisamment motivés pour mener le combat qu'on leur demande. Donc il y a un côté au niveau des nations de s'assurer que l'armée est nationale et aussi professionnelle que possible. C'est très important. Et qu'il y ait une motivation, qu'on explique aux gens de quoi il s'agit. Deuxièmement, le renseignement est très important. Donc, au lieu de perdre beaucoup de fonds, d'argent pour écouter ou espionner les opposants ou les individus qu'on n'aime pas, le renseignement doit être sur ce qu'on perçoit comme adversaire. Au lieu de voir maintenant des fonds sérieux, toute proportion gardée, alloué à la politique interne de tel ou tel gouvernement.
En attendu, donc il faut qu'elles soient vraiment suffisamment motivées, ces troupes. Oui. Mercredi, armée, par exemple, et armées.
Armées motivées, professionnelles, mm-hmm. Le service de renseignement technique et pas contre les opposants civils, militaires, etc.
Mercredi, pour en revenir à ce que vous dites, la force anti-djihadiste conjointe du G5 Sahel a mené ses premières opérations dans la zone transfrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec en soutien au sol la force militaire française Barkhane. Est-ce que vous pensez que cette opération, cette première, est un signe de montée en puissance des troupes du G5 Sahel, Monsieur Nzunzi?
Alors, effectivement, la zone dans laquelle s'est déployée cette opération est communément appelée l'Iptako-Gourma, qui est en fait la frontière de ces trois pays, Mali, Niger et Burkina. C'est une zone prioritaire. En tout cas, c'est là que les efforts seront concentrée. Et c'est là que la pression sera accentuée sur les mouvements djihadistes. Mais si vous le permettez, je voudrais juste d'un mot revenir oui, d'un sur mot. La question du financement. Parce que l'on
le financement, on va vraiment y venir en deuxième partie d'émission. Donc il faut vraiment que ce soit vraiment un court mot.
C'est important de préciser que la diminution de la contribution américaine fait partie de la stratégie américaine à l'heure actuelle. Et par contre, le montant que vous avez évoqué tout à l'heure en présentation de votre émission de 50 millions de disponibilisés n'est pas tout à fait exact.
On va y revenir en deuxième partie. Que pensent les citoyens lambda du G5 Sahel et de la situation sécuritaire dans la région ? Abdoulaye Traoré a posé la question à des habitants de Tombouctou, dans le nord du Mali.
Nous, on ne croit pas à son existence, parce que nous, habitants du Nord, jusqu'à présent, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on est tout le temps dans l'incertitude et dans l'inquiétude, parce que tous les jours, c'est des attaques, tous les jours, c'est des gens qui meurent. Donc, vraiment, nous, on n'y croit pas.
Les armées nationales des différents pays qui composent le Sahel jusqu'à la peine à vaincre le terrorisme. Donc, une telle coalition permettra certainement de mettre fin au règne des terroristes dans le Sahel. Donc nous pensons que c'est une force qui est la bienvenue et qui aidera certainement à cela.
Pour que le G5 Sahel réussisse, il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les armées même de ces pays qui composent le G5 Sahel changent. Nous avons 5 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie. Tous ces pays-là ne sont pas des forces militaires. Il faudrait vraiment qu'on revoie même la formation militaire dans ces pays-là. Il faut que ces pays possèdent des vraies armées qui peuvent protéger et assurer la libre circulation des personnes et des biens.
Pour moi, la réussite de cette force, je ne la vois même pas. Je ne la vois même pas. Parce que quand la population à elle-même ne peut pas donner certaines informations aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'expérience des forces passées montre qu'il faut aujourd'hui une coopération franche entre l'ensemble des pays qui vont concourir, bien entendu, à la composition de cette force et que les différents gouvernements doivent travailler de concert, donner les renseignements qu'il faut et être francs dans la collaboration. C'est surtout cela.
Analyse du dossier G5 Sahel, notre thème aujourd'hui dans Washington Forum. Je vous propose de poursuivre cette discussion dans quelques instants, juste après cette courte pause.
En plus de nos programmes sur FM en cours, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Jemena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite.
De retour dans ce Washington Forum consacré au G5 Sahel, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du groupe ont participé à une rencontre à Washington, une occasion de faire entendre les besoins de leur pays. Alpha Barry du Burkina Faso et Abdoulaye Diop du Mali ont répondu aux questions de Mariama Diallo Crandall.
La force conjointe du G5 du Sahel apparaît pour nous comme un bon complément à ce qui existe déjà au Mali avec les Nations Unies. Parce que la force des Nations Unies intervient à l'intérieur du Mali. Mais qui peut venir sécuriser nos frontières? Qui peut venir rentrer au-delà de la frontière du Burkina Faso pour intervenir là où les terroristes viennent nous attaquer? C'est la force conjointe du G5 du Sahel. C'est cette réponse que nous avons trouvée et nous avons besoin du soutien de la communauté internationale.
Il y avait un besoin pour nous de mettre en place une structure composée de nos propres armées. Il s'agit d'une réponse africaine. Quand les chefs d'État se sont réunis à Bamako en février de cette année, donc ils ont pris la décision courageuse de mettre en place la force conjointe du G5 Sahel, 5000 hommes, dans un premier temps, avec un budget de 450 millions de dollars, pour pouvoir vraiment engager le travail, travailler d'abord à lutter contre le groupe terroriste, à lutter contre le crime transnational organisé, y compris le trafic d'êtres humains.
Alors nous sommes toujours en ligne avec Nouakchott, avec Amédou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara et ancien fonctionnaire de l'ONU. En duplex de notre studio à Bruxelles, en Belgique, Henri-Désiré Nzunzi, analyste politique et expert diplomatique. Et en plateau, Idriss Fall, grand reporter et rédacteur en chef du service radio du service francophone de la VOA. Alors le budget dont on parlait en première partie, le budget de fonctionnement pour la force G5 Sahel est estimé à 450 millions de dollars. Chaque pays membre s'est engagé à donner 10 millions de dollars. Washington préfère offrir une aide directe sans passer par les fonds. On ne sait pas comment elle sera divisée entre le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Comment répartir cette somme de façon judicieuse, selon vous, M. Abdallah ? Succinctement.
Naturellement, c'est le département d'État et de la Défense à Washington qui vont être chargés de cette répartition. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est se féliciter qu'il y ait cet engagement. Il faut aussi demander que cet engagement soit effectif, que la promesse se matérialise sur le terrain. Ceci étant, je pense que la priorité va être faite de pays à pays selon l'engagement. Il est vraisemblable que le pays central, c'est-à-dire le Burkina, Niger et Mali, à cause précisément de ce que vous évoquiez dans la première partie de l'Iptako Gourma, ait une part plus significative. Mais le Niger, plutôt la Mauritanie et le Tchad sont des pays frontaliers de la zone des conflits. Ces deux pays ont une bonne expertise militaire, ce sont des pays typiquement Sahel-Sahara, et je crois que les soutenir est une excellente chose parce qu'ils ont la mobilité, l'expertise qui permet de compléter ce qu'on voit dans les pays entre guillemets plus sédentaires.
Alors l'enveloppe proposée par les États-Unis est une première étape pour les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Ils étaient à Washington mardi pour une conférence débat avec le thème « Une réponse dirigée par les Africains à l'insécurité dans la région sahélienne ». Je vous propose d'écouter deux extraits.
On salue la contribution des États-Unis, c'est la plus importante jusqu'ici. Mais je dois vous dire que jusqu'ici, les contributions annoncées, il y a 50 millions de pays concernés, 50 millions de pays de l'Union européenne, 8 millions de la France, 1 million de Danemark et 60 millions des États-Unis. Or, nous cherchons près de 450 millions de dollars. Donc, vous vous rendez compte que le compte est loin d'être atteint et vous rendez compte que nous avons besoin de continuer à mobiliser les partenaires et surtout les plus puissants. Parce que les États-Unis, ils ont les capacités militaires, ils ont les capacités financières et ils ont un poids politique qui permet d'impacter sur l'évolution de la force du G5 Sahel. Nous, notre conviction, si les États-Unis comprennent, réalisent et soutiennent la force du G5, elle sera une réussite.
Nous saluons ce soutien des États-Unis. Les 60 millions sont la première, plus grande contribution. 60 millions, personne n'a encore donné 60 millions au G5. Mais nous pensons, puisqu'il y a une réunion qui va se tenir à Bruxelles le 14 décembre prochain, où tous les pays seront invités à aider le G5. Nous espérons que les États-Unis annonceront encore une aide additionnelle.
Ministre des Affaires étrangères du Niger et du Tchad, au micro de Mariama Diallo Crandall. Mars 2016, Grand Bassam est attaqué en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus au Sahel, mais plus au sud. Est-ce que les djihadistes peuvent aller aussi vers le Sénégal et bien d'autres pays, Monsieur Abdallah ?
Vous posez là une très importante question. Il ne faut pas oublier, parce que l'actualité immédiate nous oblige à parler de G5 Sahel, mais la crise a commencé il y a déjà plus d'une dizaine d'années en Algérie, quand l'armée algérienne et le pouvoir politique algérien ont réussi à contenir les extrémistes, ceux-ci sont descendus au Sahel. Et dans le Sahel, non seulement ils se renforcent, non seulement, comme vous venez de le dire, sont faits de
l'État. Je vous entends pas très très bien. Est-ce que d'autres pays devraient rejoindre la force G5 Sahel, selon vous?
Ce que M. Abdallah voulait montrer, c'est que En fait, c'est l'Algérie qui a connu en premier le terrorisme après la victoire du Front islamique du Salut. Et ça n'est plus vu, on a annulé les élections, c'était des rébellions, on n'a plus fini. Mais l'Algérie étant aussi une puissance militaire régionale qui est arrivée à l'indépendance par la guerre contre la France, est arrivé à contenir tous ces djihadistes, les repousser vers le sud. Un certain Mokhtar Belmokhtar, qui est aujourd'hui un personnage redouté, qu'on a annoncé plusieurs fois pour mort, avait pignon sur rue dans le nord du Mali. Et même à un moment donné, les Américains avaient eu la possibilité de l'éliminer physiquement. Dans ces époques-là, ça n'a pas été fait. Et que donc, quand les djihadistes ont pris le nord du Mali, avec tous les anciens Algériens, donc ça a essaimé. Le Sahraoui dont on parle, moi je l'ai retrouvé à Gao, sous occupation djihadiste, et que maintenant il est quelque part là-bas dans l'est du Mali. On cite Iyad Agali, qui était aussi pignon sur rue, qui avait des copains. Aujourd'hui, on dit que c'est lui qui dirige les défenseurs de l'islam. Sans parler de... Donc tout ça, quand on les a bombardés, bon, ils sont dispersés dans la nature. Ils sont fondés avec les populations. Donc, ce qui fait que je crois que la question de militaire, là, et même l'argent, je pense qu'il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour venir à bout de ces gens-là. Parce qu'ils ont l'avantage de... Ils connaissent la région, ils se fondent avec les populations locales, ils recrutent de plus en plus parmi les jeunes locaux. Justement, ils descendent vers Abidjan, ils descendent vers Ouagadougou.
Et... Par rapport au recrutement, justement, il y a un déficit d'éducation avec un manque d'écoles, d'infrastructures dans de nombreuses zones rurales. Est-ce que, selon vous, M. Nzunzi, la solution militaire est suffisante à la menace terroriste?
Dans un premier temps, oui, même si lorsque l'on s'interroge sur les causes réelles, on a bien évidemment un problème en termes de gouvernance politique et sécuritaire. À cela s'ajoute évidemment une pauvreté chronique et puis bien évidemment les effets du réchauffement climatique. Tout cela fait qu'il y ait un cocktail explosif qui peut effectivement inciter certains à des dérives, je dirais, comportementales. On a évoqué effectivement tout à l'heure le fait qu'il y avait plusieurs groupes djihadistes qui surfaient sur cette vague, et le fait que le G5 Sahel ait été mis sur pied permettra en tout cas de focaliser ses efforts sur, je dirais, les deux grands mouvements qui d'une certaine manière se répartissent la terreur dans la région. D'un côté, bien évidemment, c'est Daesh qui a quand même réussi à travers l'État islamique dans le Grand Sahara à pouvoir fédérer certains groupes avec notamment le soutien de Boko Haram qui en a d'ailleurs profité pour se rebaptiser Daesh en Afrique de l'Ouest. Et puis l'autre grand mouvement que l'on a parfois tendance à oublier mais qui s'appuie essentiellement sur son représentant local et attitré, à savoir Al-Qaïda, donc qui s'appuie sur l'ACMI, peut compter aussi sur deux mouvements qui eux se sont illustrés dans l'horreur, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est notamment Al-Sardin d'inspiration malienne et merci, surtout Al-Mourabitoum dont on a parlé récemment de Mokhtar Belmokhtar.
Merci, on va bientôt terminer cette émission, mais on voudrait aussi avoir votre avis sur ça.
Mais toutes ces régions, c'est des régions qui sont abandonnées par l'État.
Oui, tout à l'heure, Monsieur Abdallah parlait de suspicion,
y a pas
de l'efficacité.
C'est des régions où les jeunes, vraiment, le Tongo-Tongo dont vous entendez parler là, mais c'est au milieu de nulle part là-bas, c'est un village.
Pour motiver ces personnes à ne pas rentrer dans ces groupes, il faudrait qu'il n'y ait plus cet abandon envers ces populations.
Il n'y a rien qui est investi dans le nord du Mali. Rien. C'est des jeunes qui sont désespérés. Ce sont ces mêmes jeunes que vous voyez qui veulent traverser le Sahara pour aller en Europe. C'est eux qu'on récupère pour en faire des djihadistes.
Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à tous nos invités. Ainsi s'achève cette émission. Merci à toute l'équipe technique et à vous pour votre fidélité. Ainsi, donc, on peut donner un grand clin d'œil à Africable qui diffuse Washington Forum à Bamako, au Mali.